呢族人有病啊！我覺得呢個係最離譜、最離譜嘅做法。
Le monde va mal. Amélie, c'est moi qu'on puisse dire, la prochaine guerre sera celle de la toile, dites-vous.
On l'a vu cette année lors de nombreux soulèvements populaires partout sur la planète. Vous pouvez les entendre là. L'un des moyens de répression du pouvoir, c'est très souvent de couper Internet, de supprimer les moyens de communication entre protestataires, de bloquer les réseaux sociaux. Ainsi, la Russie vient de passer une étape cruciale. Elle s'est félicitée hier d'avoir mené à bien des tests pour isoler son Internet des serveurs mondiaux. Officiellement, c'est un moyen de se défendre contre des cyberattaques étrangères ou des tentatives d'intercepter les SMS ou les données cellulaires des abonnés en Russie. Le Kremlin assure qu'il veut protéger les services de l'État et le système bancaire en cas de cyberattaque ou de cyberguerre, mais les opposants y voient un nouvel outil de censure, comme l'explique ce cyberactiviste chez nos confrères d'Euronews.
Cette loi s'inscrit dans la tendance que nous observons depuis 7 ans qui va vers une réglementation stricte de la sphère d'Internet, car Internet effraie les autorités. La loi va permettre aux autorités de gérer plus efficacement le trafic sur le web et en particulier de contrôler la section russe du net. Or, elle a été adoptée sous le prétexte de défendre le pays contre les cybermenaces.
Car effectivement, à l'avenir, le gendarme russe des télécoms pourra bloquer n'importe quel site. Le président Poutine l'assure, l'Internet libre et l'Internet souverain, ces deux notions ne se contredisent pas. Il l'a dit la semaine dernière et on en doute déjà.
Un musée qui ferme, Amélie, ça dit beaucoup de choses sur l'Amérique de Donald Trump.
Et là aussi, il est question de liberté d'expression. C'est le Newseum, un musée de Washington, la capitale américaine. Vous le connaissez, hein, Fabienne ?
Magnifique, c'est vous un l'avez très visité. Très beau musée. Ouais.
Ouais, quand vous étiez correspondante là-bas pour Radio France, eh bien, il va fermer ce musée à la fin de l'année. Le bâtiment est vendu.
The museum is designed for you to start your tour where you are now, the concourse level. Then take the glass elevators to the top, the sixth floor.
Et voilà une visite vidéo de ce muséum, un immense bâtiment situé entre la Maison Blanche et le Capitole sur Pennsylvania Avenue. Le muséum, c'est une collection rare des unes des journaux du monde entier, des expositions sur le 11 septembre ou encore sur la chute du mur de Berlin. Il est géré par une association créée par le fondateur de USA Today, le quotidien national. L'association promet qu'elle va continuer sa mission d'éducation du public sans préciser si elle va trouver un nouveau bâtiment. Même s'il est payant et que les plus grands musées de la capitale fédérale sont gratuits, ça ne l'a pas empêché, le muséum, d'attirer 10 millions de visiteurs depuis sa création. Mais aujourd'hui, il succombe à la crise des médias. Crise financière, crise de confiance aussi. Aujourd'hui, seuls 40% des Américains ont confiance dans les journaux, la radio ou la télé, contre 70% dans les années 70. Donald Trump n'y est pas étranger avec ses discours très virulents sur les journalistes, ennemis du peuple, selon lui. Et ses discours également sur les fake news que l'on connaît trop bien.
Allez, un autre musée pour terminer. Si vous abusez trop du champagne ce soir et que vous avez mal au crâne demain.
Voilà, on a tous eu au moins la tentation de noyer un réveillon familial bien lourd dans des litres d'alcool.
Arrêtez de parler de vous, Amélie.
Pas du tout. C'est un exemple. L'abus est très mauvais pour la santé. L'abus d'alcool, on ne vous recommande pas. Mais si ça arrivait, par hasard, si ça arrivait, voilà un musée qui pourrait vous amuser à Zagreb, la capitale de la Croatie. Le musée de la gueule de bois, cofondé par Roberta Mikelić ici au micro de l'AFP. On voulait rassembler des objets avec lesquels les gens se réveillent, dit-elle, sans savoir où ils les ont ramassés. Donc l'idée, c'est de réunir ces objets et les histoires qui vont avec pour permettre aux visiteurs de s'identifier, d'en rire, d'y voir le côté marrant et de repartir d'ici heureux. Alors pour l'instant, l'établissement n'évoque que le côté festif des nuits d'ivresse à travers un parcours qui retrace le difficile retour à la maison après une soirée trop arrosée. On voit par exemple son reflet dans les vitrines des magasins, les chants des oiseaux du petit matin, le réveil dans une pièce envahie de cadavres de bouteilles et de cendriers qui débordent. Les visiteurs peuvent boire de l'eau de vie locale en déambulant. Au mur, il y a des témoignages avec des histoires plutôt drôles, comme ce jeune homme qui arrive chez lui au petit matin. Il présente sa carte d'identité à son père, un policier en uniforme sur le point d'aller travailler. Le jeune pense se trouvait à l'entrée d'une nouvelle boîte de nuit. Bon, il a été privé de sortie pendant un petit moment. On peut aussi jouer aux fléchettes avec une sorte de masque de ski qui simule la vue troublée par l'ivresse. C'est assez bon enfant, donc les créateurs promettent quand même.
Pour rentrer à pied, juste.
Effectivement. Les créateurs promettent quand même d'ouvrir bientôt une salle sur les dangers d'une consommation excessive d'alcool. Ils veulent aussi ouvrir un bar pour servir des remèdes anti-gueule de bois. Bonne idée.
Je ne ferai aucune remarque. Vous noterez bien.
Vous sentez concerné?
Merci, pas du tout, pas une seconde. Merci beaucoup. Allez noyer ce que vous voulez.
Joyeuse fête.
Voilà. Ne rentrez pas à vélo. Je vous souhaite un joyeux Noël.